L'épître de Jacques, chapitre 1, à partir du verset 17 au verset 27. Jacques, chapitre 1, verset 17 à 27. Au nom de Jésus. Tout don excellent et tout cadeau parfait vient du ciel. Ils descendent de Dieu, le Créateur des lumières célestes. Dieu ne change pas et ne produit pas d'obscurité par des variations de position. De sa propre volonté, il nous a donné la vie et par la parole de vérité, afin que nous soyons au premier rang de toutes ses créatures. Rappelez-vous bien ceci, mes chers frères. Chacun doit être prompt à écouter, mais lent à parler et lent à se mettre en colère. Car un homme en colère n'accomplit pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. C'est pourquoi rejetez tout ce qui salit et toute activité mauvaise. Acceptez avec humilité la parole que Dieu plante dans votre cœur, car elle peut vous sauver. N'allez pas vous tromper vous-même en vous contentant d'écouter la parole de Dieu. Mettez-la réellement en pratique. Car celui qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à un homme qui se regarde dans un miroir et se voit tel qu'il est. Après s'être regardé, il s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui examine attentivement la loi parfaite qui nous donne la liberté et s'y attache fidèlement, qui ne se contente pas de l'écouter pour l'oublier ensuite, mais qui la met en pratique, celui-là sera béni par Dieu dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux et ne sait pas maîtriser sa langue, il se trompe lui-même. Sa religion ne vaut rien. Voici ce que Dieu le Père considère comme la religion pure et authentique. Prendre soin des orphelins et des veuves dans leurs souffrances et se garder de toute tâche produite par la mauvaise influence du monde. Amen. L'épître de Jacques a toujours créé des débats théologiques, rien que sur sa présence dans la Bible. Est-ce que l'épître de Jacques a sa place dans la Bible? Parce que, figurez-vous, le réformateur Luther, par exemple, il arrivait même à dire que cette épître est une épître de paille, c'est-à-dire léger, qu'il ne faut pas trop la considérer que les autres écritures, puisque si on la lit et qu'on regarde bien ce qu'il dit, on a l'impression qu'il véhicule une théologie tout autre que les textes fondamentaux de la Bible. Selon Jacques, nous sommes justifiés par les actes. Et c'est là qu'il coince. Et je tiens à choisir ce mot « acte » et non « œuvre » pour faire la nuance entre les œuvres mentionnées par Paul. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le contexte au temps des réformateurs, il y avait ce qu'on appelle les abus pour inciter les gens à donner afin d'avoir le salut de leur âme. De même, il faut aussi savoir qu'au temps du premier siècle, au temps de la première église, il y avait aussi un abus sur cette notion de grâce, que certains ne travaillaient même plus parce qu'ils attendaient, par exemple, le retour du Christ, comme le cas à Thessalonique. Il y avait aussi les veuves non-juives qui ont été mal traitées, mal considérées par rapport aux veuves juives dans la communauté à Jérusalem. Donc il y avait du désordre dans l'Église. Et Jacques, c'est l'évêque de l'Église de Jérusalem, il a dit « il faut mettre fin à ce désordre ». C'est pour cette raison que Jacques monte au créneau pour dire « ça suffit, Il faut arranger cela. Et je trouve que ça tombe bien dans le culte de rentrée pour l'organisation d'une église. En lisant ce premier chapitre, nous pouvons constater que Jacques, ça c'est mon impression, c'est quelqu'un, un chrétien qui a les pieds sur terre. Ce n'est pas un mystique. Un chrétien réaliste. Un homme qui vit sa foi, mais en même temps qui est lucide face à la réalité de la vie. Parce que Jacques met à nu notre réalité anthropologique, c'est-à-dire notre réalité en tant qu'être humain. Il nous dévoile, parce que parfois on met des masques autour. Comment nous fonctionnons au quotidien? Qui sommes-nous réellement? Pour Jacques, nous sommes des êtres sous l'emprise de nos pulsions. Et quand il parle de colère ici, c'est la parole sous les feux de colère, les mauvaises langues, etc. Vous venez d'entendre la liste qu'il a faite. Et personnellement, je considère, moi, cette péricope comme un miroir que Jacques veut nous placer devant nous afin que nous rendions compte que nous ne sommes que des humains bourrés de faiblesses. Et ce genre de texte nous secoue pour nous faire admettre que nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Mais notre seule différence par rapport au monde, c'est que nous soyons conscients de notre nature. Et quand nous sommes conscients de cela, nous pouvons nous battre jour et nuit pour au moins, je dis bien au moins, de les contrôler. Même, et là c'est le constat, même si nous ne pourrons jamais les vaincre. Ça c'est ce qu'on appelle le déjà et le pas encore. En même temps, nous sommes déjà enfants de Dieu, mais aussi nous sommes encore des pécheurs. Et je vous assure, l'ennemi le plus terrible à combattre dans la vie chrétienne, ce n'est pas le diable, puisqu'il a été déjà vaincu à la croix. Ni le monde, mais nous, l'ennemi redoutable. Toi, tu es ton propre problème. Pas les autres, ni le diable. Tu es le problème. Je suis le problème. Et j'insiste le fait que notre nature, ici, n'est pas simplement du domaine spirituel, parce que parfois les chrétiens mettent des cases spirituelles, profanes. Non, pour Jacques, tout ça forme un ensemble. Et même si nous allons prier du matin jusqu'au soir pour que cette nature pécheresse puisse s'enlever de nous, je suis navré de vous le dire, que l'homme ancien, comme dit Paul, est en nous jusqu'à notre dernier souffle. Je le dis toujours, l'original est toujours présent. Alors ce qu'il y a ici, Jacques nous appelle à livrer une bataille sans fin, contre nous-mêmes. Et concrètement, au moment où notre pulsion fait son œuvre, d'après les psychologues, les spécialistes, les anthropologues, ils ont pu mesurer ces pulsions scientifiquement parlant, qu'il y a vraiment une décharge électrique selon eux qui va activer certaines zones dans notre cerveau, et ils l'ont prouvé par IRM au moment où les pulsions montent. Donc c'est pas que spirituel, c'est vraiment notre nature physique, humaine. Et les scientifiques affirment aussi que nous sommes tous confrontés à nos pulsions. Et ils soulignent que c'est tous les jours, d'après les neuropsychologues, tous les jours que nous subissons à nos pulsions. Qui que ce soit-il, même le pape, même le pasteur, même le prophète, même l'apôtre, quel que soit tout le monde, même celui ou celle qui est la plus pieuse parmi nous, comme on dit aussi, une religion qui est annoncé par Jacques. La seule chose qu'il faut savoir, disent les scientifiques, c'est que lorsque ces pulsions sont mal gérées, elles peuvent entraîner des addictions. Et ça, on le sait. Chers amis, j'ai regardé dans l'épître de Jacques et comparé à ce que les scientifiques ont dit, mais ils disent exactement la même chose dans leur propre langage. Regardez le verset 14 et 15. En réalité, même si on ne l'a pas lu un peu plus en haut, en réalité, tout être humain est tenté quand il se laisse entraîner et prendre au piège par ses propres désirs. Ensuite, tout mauvais désir conçoit et donne naissance au péché, et quand le péché est pleinement développé, il engendre la mort. Vous voyez, il y a un processus. D'abord, il y a les désirs, qui n'est pas un péché. C'est quelque chose qui est normal, mais ce désir, quand nous essayons de la nourrir, et là, il devient péché. Faisons une comparaison de langage. Les scientifiques parlent de pulsions quotidiennes. Jacques lui parle de tentations quotidiennes. Nous sommes tentés quotidiennement parce que nous avons nos désirs et nos envies qui peuvent se transformer en addiction. Alors quand nos désirs et nos envies, qui soulignons-le, sont normales en tant qu'être humain, ils peuvent devenir aussi des problèmes si elles ne sont pas contrôlées. Alors l'épître de Jacques me semble-t-il être en accord avec ce que disent les scientifiques. Mais, le seul bémol, là où les Saintes Écritures ne sont pas du tout de même avis avec la science, c'est que pour eux, pour les scientifiques, il y a ce qu'on appelle, ce qu'ils appellent la pulsion avec conscience, c'est-à-dire qu'ils peuvent se contrôler. C'est pour ça que j'ai mis le thème « self-control » avec un point d'interrogation, parce que est-ce qu'on peut se maîtriser? Est-ce qu'on peut maîtriser nos pulsions? Et les scientifiques disent oui. Mais est-ce vrai? Frères et sœurs en Christ, est-ce que notre conscience, si on dit qu'il y a des pulsions avec conscience, est-ce que notre conscience, elle est encore fiable? Paul dit que notre conscience est marquée au fer rouge dans l'épître aux Colossiens. Notre conscience est marquée au fer rouge. C'est-à-dire que nous n'avons plus la capacité de réagir par notre propre conscience. On a la volonté, mais on n'a pas la force de le faire. Et d'où l'enseignement des réformateurs qui ont martelé que la notion du libre arbitre, tant aimée par les humanistes qui disent « on a notre libre arbitre », n'est que pure théorie. Mais dans la réalité, notre arbitrage, elle est aussi captive, disent les réformateurs. Même notre conscience, elle est embrigadée par le péché. Et c'est pour cette raison qu'au verset 26, Jacques propose, il n'impose rien, il propose quelque chose. Et avec humilité, ce serviteur de Dieu, toujours conditionné par un réalisme, il dit qu'il faut tenir en bride la langue, par exemple. C'est une proposition qu'il fait, et l'image est très forte. Tenir en bride la langue. Quand il dit cela, Jacques, il est conscient que ça va être une bataille. Il se peut que tu t'en sors vainqueur aujourd'hui, mais demain, il se peut aussi que tu vas perdre la bataille. Et ainsi de suite, la vie du chrétien. Mais l'essentiel pour lui, c'est que tu te lances dans le combat. Tu ne te laisses pas faire. Il propose un exercice quotidien qui semble être simple à dire, mais qui, avouons-le, la plus difficile à faire. Et c'est quoi cet exercice qu'il dit? Se taire, mettre la bride, la langue. Parce qu'on a envie de réagir, on a envie de dire quelque chose. Mais pour limiter les dégâts, il nous invite à se taire. Oui, difficile parce que en nous avons tout de suite envie de réagir du tac au tac. Mais nous savons pertinemment qu'à ce moment-là, nous ne maîtrisons pas du tout notre pulsion. Et Jésus nous a déjà prévenus, nous venons de l'entendre tout à l'heure, car c'est du dedans du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, que le poussent à vivre dans l'immoralité. Oui, nous sommes tous potentiellement immoraux et aussi potentiellement des tueurs. Et vous allez me dire, mais comment ça? Oui, je dis bien, nous sommes des tueurs, mais bien cachés au fond de nous, le loup qui guette la moindre occasion pour dévorer sa proie. Oui, je dis bien que nous sommes des tueurs potentiels parce que l'évangile de Matthieu le dit. Eh bien, moi, je vous déclare, tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de comparaître devant le juge. Celui qui dit à son frère « imbécile » mérite d'être jugé par le conseil supérieur. Celui qui lui dit « idiot » mérite d'être jeté dans le feu de l'enfer. Matthieu chapitre 5, verset 22. Face à ce constat, on ne peut qu'être découragé en se disant « mais il n'y a plus rien à faire alors. Nous sommes foutus si nous sommes mauvais de nature. » Et je vous dirai oui et non. Oui, parce que c'est salutaire d'être conscient que nous ne pouvons rien faire par nos propres moyens. C'est là que nous avons besoin de Jésus, de sa parole, du pardon. Parce qu'on ne peut rien faire par nous-mêmes. Et toutefois, je dis aussi non, nous ne sommes pas foutus. Heureusement, Jacques, lui, avant de faire cet étalage de notre finitude et de nos manquements, il commence d'abord à dire au verset 17, « Tout don excellent et tout cadeau, remarquez bien ce mot, cadeau, parfait descende du ciel, c'est-à-dire qu'ils ne viennent pas de nous. Ils viennent de Dieu, le Créateur des lumières célestes, et Dieu ne change pas. Il ne produit pas d'ombre par des variations de position. » Voilà la bonne nouvelle. Voilà l'évangile. Malgré notre inconstance et notre nature, il n'y a pas de variation en Dieu. Il ne change pas. Il est toujours fidèle avec nous. Il reste fidèle à ceux qui croient en lui. Et indépendamment de nos erreurs, il est fidèle. Et en même temps, c'est là que Jacques finalement rejoint l'apôtre Paul, même si on a essayé de les opposer. Il précise bien que seul le don divin, qui n'est que le pardon et la grâce, qui est la seule solution à tout cela. En bref, il nous appelle à ne pas se cacher derrière notre faiblesse, qu'on prétexte de ne rien faire, mais aussi, il est conscient que nous serions souvent amenés à venir au pied de la croix pour demander le pardon à chaque bataille. À chaque fois que tu perds une bataille, ne te retranche pas dans ta culpabilité. Viens au pied de Jésus. Dis-lui, Seigneur, j'ai essayé, mais j'ai échoué. Et il va te relever. Et tu dis, mon enfant, le chemin sera encore long, mais je te tiens par ta main. Et quand le Seigneur te tient, c'est lui qui te relèvera à chaque échec. Amen. Thank you.